Paul Valéry, propos sur l'intelligence. Il arrive que l'on demande à quelqu'un s'il y a une crise de l'intelligence, si le monde s'abêtit, s'il y a un dégoût de la culture, si les professions libérales pâtissent, songent à la mort, sentent leur force décroître, leur rang s'éclaircir, leur prestige devenir de plus en plus mince, leur existence de plus en plus ingrate, précaire, mesurée. Mais ces questions surprenant ce quelqu'un qui s'en trouvait fort éloigné, il faut bien qu'il se reprenne, qu'il se retourne en soi-même vers elle, qu'il se réveille de ses autres pensées et qu'il se frotte les yeux de l'esprit, qui sont les mots. Crise, se dit-il tout d'abord, qu'est-ce donc une crise? Décidons de ce terme. Une crise est le passage d'un certain régime de fonctionnement à quelque autre, passage que ces signes ou des symptômes rendent sensibles. Pendant une crise, le temps semble changer de nature. La durée n'est pas perçue comme dans l'état ordinaire des choses. Au lieu de mesurer la permanence, elle mesure la variation. Toute crise implique l'intervention de causes nouvelles qui troublent un équilibre mobile ou immobile qui existait. Et comment ajuster à la notion d'intelligence l'idée de crise que l'on vient de rappeler en quelques mots? Chacun se sert de l'esprit qu'il a. Un manœuvre se sert du sien par rapport à soi, autant que quiconque, philosophe ou géomètre. Si ses discours nous semblent grossiers et trop simples, les nôtres lui sont étranges ou absurdes. Chacun de nous est un manœuvre pour quelqu'un. Et d'où nous vient, enfin, cette exigence du nouveau? Nous y repenserons tout à l'heure. Laissons les questions se multiplier d'elles-mêmes. Impatience, disais-je. Adieu, travaux infiniment lents, cathédrale de 300 ans dont la croissance interminable s'accommodait curieusement des variations et des enrichissements successifs qu'elle semblait poursuivre et comme produire dans l'altitude. Adieu, peinture à la longue obtenue par l'accumulation de transparents travaux, de touches claires et minces dont chacune attestait la suivante pendant des semaines sans égard au génie. Adieu, perfection du langage, méditation littéraire et recherche qui faisait les ouvrages à la fois comparables à des objets précieux et à des instruments de précision. Nous voici dans l'instant, voués aux effets de choc et de contraste, et presque contraints à ne saisir que ce qui illumine une exclamation de hasard et que la suggère. Nous recherchons et apprécions l'esquisse, l'ébauche, les brouillons. La notion même d'achèvement est presque effacée. C'est que le temps est passé ou le temps ne comptait pas. L'homme d'aujourd'hui ne cultive guère ce qui ne peut point s'abréger. L'attente et la constance pèsent à notre époque, qui essaie de se délivrer de sa tâche à grands frais d'énergie. La mise en jeu, la mise en train de cette énergie exige le machinisme, et le machinisme est le véritable gouvernant de notre époque. Il faut voir de quel prix nous payons ces immenses services, en quelle monnaie l'intelligence se libère, et si l'accroissement et la puissance de précision et de vitesse ne va pas réagir sur l'être qu'il désire et qu'il obtient de la nature. Il arrive à l'homme moderne d'être quelquefois accablé par le nombre et la grandeur de ses moyens. Notre civilisation tend à nous rendre indispensable tout un système de merveilles issues du travail passionné et combiné d'un assez grand nombre de très grands hommes et d'une foule de petits. Chacun de nous éprouve les bienfaits, porte le poids, reçoit la somme de ce total séculaire de vérités et de recettes capitalisées. Aucun de nous n'est capable de se passer de cet énorme héritage, aucun de nous capable de le supporter. Il n'y a plus d'homme qui puisse même envisager cet ensemble écrasant. C'est pourquoi les problèmes politiques, militaires, économiques deviennent difficiles à résoudre. Les chefs, si rares, les erreurs de détail si peu négligeables. On assiste à la disparition de l'homme qui pouvait être complet, comme de l'homme qui pouvait matériellement se suffire. Diminution considérable de l'autonomie, dépression du sentiment de maîtrise, accroissement correspondant de la confiance dans la collaboration, etc. La machine gouverne. La vie humaine est rigoureusement enchaînée par elle, assujettie aux volontés terriblement exactes des mécanismes. Ces créatures des hommes sont exigeantes. Elles réagissent à présent sur leur créateur et les façonnent d'après elles. Il leur faut des humains bien dressés. Elles en effacent peu à peu les différences et les rendent propres à leur fonctionnement régulier, à l'uniformité de leur régime. Elles se font donc une humanité à leur usage, presque à leur image. Il y a une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes, pacte comparable à ces terribles engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des îles toxiques. Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient. Plus elle le devient, plus nous devenons incomplets, incapables de nous en priver. La réciproque de l'utile existe. Les plus redoutables des machines ne sont point peut-être celles qui tournent, qui roulent, qui transportent, qui transforment la matière ou l'énergie. Il est d'autres engins, non de civils, cuivre ou d'acier bâti, mais d'individus étroitement spécialisés, organisations, machines administratives construites à l'initiation d'un esprit en ce qu'il y a d'impersonnel. La civilisation se mesure par la multiplication et la croissance de ses espèces. On peut les assimiler à des êtres énormes, grossièrement sensibles, à peine conscients, mais exclusivement pourvus de toutes les fonctions élémentaires et permanentes d'un système nerveux démesurément grossi. Tout ce qui est relation, transmission, convention, correspondance, se voit en eux à l'échelle monstrueuse d'un homme par cellule. Ils sont doués d'une mémoire sans limite, quoique aussi fragile que la fibre du papier. Ils y puisent tous leurs réflexes, dont la table est loi, règlement, statut, précédent. Ces machines ne laissent point de mortels qu'elles ne l'absorbent dans leur structure, ne s'en fassent un sujet de leurs opérations, un élément quelconque de leur cycle. La vie, la mort, les plaisirs, les travaux des hommes sont des détails, des moyens, des incidents de l'activité de ces êtres, dont l'empire n'est tempéré que par la guerre qu'ils se font entre eux. Chacun de nous est une pièce de quelqu'un de ces systèmes, ou plutôt appartient toujours à plusieurs systèmes différents. Et il abandonne à chacun une part de la propriété de soi, comme il emprunte de chacun d'eux une part de sa définition sociale et de sa licence d'être. Nous sommes tous citoyens, soldats, contribuables, hommes de tel métier, tenants de tel parti, enfants de telle religion, membres de telle organisation, de tel club. Faire partie est une expression remarquable. Nous sommes en quelque sorte, par le refoulement et l'analyse de la masse humaine, qui se font toujours plus précis et minutieux, devenus des entités bien définies. Comme telles, nous ne sommes plus que des objets de spéculation, des véritables choses. Et ici, je suis conduit à prononcer des mots sans grâce et contraint d'écrire avec horreur que l'irresponsabilité, l'interchangeabilité, l'interdépendance, l'uniformité des mœurs, des manières et même des rêves gagnent le genre humain. Les sexes eux-mêmes ne semblent plus devoir se distinguer l'un de l'autre que par les caractères anatomiques. Ce n'est pas tout. Le monde moderne est un monde tout occupé de l'exploitation toujours plus efficace et plus approfondie des énergies naturelles. Non seulement il les recherche et les dépense pour satisfaire aux nécessités éternelles de la vie, mais il les prodigue, et il s'exerce à les prodiguer au point de créer de toutes pièces des besoins inédits, et même que l'on n'eût jamais imaginé, à partir des moyens de contenter ses besoins. Comme si, ayant inventé quelque substance, on inventait, d'après ses propriétés, la maladie qu'elle guérisse, la soif qu'elle puisse apaiser. L'homme, donc, s'enivre de dissipation. Abus de vitesse, abus de lumière, abus de tonique, de stupéfiant, d'excitant. Abus de fréquence dans les impressions. Abus de diversité. Abus de résonance. Abus de facilité. Abus de merveille. Abus de ces prodigieux moyens de décrochage ou de déclenchement, par l'artifice desquels d'immenses effets sont mis sous les doigts d'un enfant. Toute vie actuelle est inséparable de ces abus. Notre système organique, soumis de plus en plus à des expériences physiques et chimiques toujours nouvelles, se comporte à l'égard de ses puissances et de ses rythmes qu'on lui inflige, à peu près comme il le fit à l'égard d'une excitation, d'une intoxication insidieuse. Il s'accommode à son poison. Il l'exige bientôt. Il en trouve chaque jour la dose insuffisante. L'œil, à l'époque de Ronsard, se contentait d'une chandelle. Les érudits de ce temps-là, qui travaillaient volontiers la nuit, lisaient, et quel grimoire, écrivaient sans difficulté à quelques lueurs mouvantes et misérables. Ils réclament aujourd'hui 20, 50, 100 bougies. Quant à notre sens le plus central, notre sens de l'intervalle entre le désir et la possession de son objet, qui n'est autre que le sens de la durée, ce qui se satisfait, je dis, de la vitesse de chevaux ou de la brise, il trouve que les rapides sont bien lents et que les messages électriques le font mourir de langueur. Les événements eux-mêmes sont demandés comme une nourriture. S'il n'y a point ce matin quelque grand malheur dans le monde, nous nous sentons un certain vide. Il n'y a rien aujourd'hui dans les journaux, disent-ils. Nous voilà pris sur le fait. Nous sommes tous empoisonnés. Il faudrait à présent rassembler toutes ces remarques, les rapporter à l'idée que nous avons de l'intelligence facultée, et se demander si ce régime d'excitation intense et rapproché, de sévices déguisés, de rigueurs utilitaires, de surprises systématiques, de facilités de jouissances trop organisées, ne doit pas amener une sorte de déformation permanente de l'esprit, lui faire perdre et acquérir des propriétés. Et si, en particulier, les dons mêmes qui lui ont fait désirer ses progrès, comme pour s'employer et se développer, ne sont pas affectés par l'abus, dégradés par leurs propres effets, épuisés par leur acte. Mais, point de conclusion. Mieux vaut reprendre un peu et repenser sa pensée. J'ai déjà dit qu'il n'était pas question de résoudre de tels problèmes. Je le voudrais, avant de les abandonner, que renforcer quelques-unes des idées que j'ai rapidement éveillées. J'ai parlé d'une sorte d'intoxication par l'énergie. Il s'y rattache ce qu'on pourrait nommer l'intoxication par la hâte. Je ne sais qui avait signalé il y a quelque 30 ans, comme un phénomène critique dans l'histoire du monde, la disparition de la terre libre, c'est-à-dire l'occupation achevée des territoires habitables par des nations organisées, l'impossibilité de s'étendre sans coup férir, la suppression des biens qui se lancent à personne. Les terres inhabitables elles-mêmes sont aujourd'hui appropriées et retenues. L'Angleterre, par exemple, et nécessairement elle, a mis la main sur le continent Antarctique, dans quelques milliers d'années, La procession des équinoxes lui permettra de se féliciter de sa prévoyance. Mais je ne parlais de la terre libre que par figure. C'est au temps libre que je voudrais en venir. Ce n'est pas le loisir tel qu'on l'entend d'ordinaire que vise maintenant ma pensée, non, non. Le loisir apparent existe encore, et même il se défend au moyen de quelques mesures légales et de perfectionnement mécanique, comme la conquête des heures par l'activité. Mais je dis que le loisir intérieur se perd. Nous perdons cette paix essentielle de profondeur de l'être, cette absence sans prix pendant laquelle les éléments les plus délicats de la vie rafraîchissent et se réconfortent. L'oubli parfait les baigne. Ils se lavent du passé, du futur, de la conscience nette et pressante, de la présence implicite et confuse, des obligations suspendues et des attentes embusquées. Point de souci, point de lendemain, point de pression intérieure, mais d'une sorte de repos dans l'état pur les rend à leur liberté propre. Ils ne s'occupent alors que d'eux-mêmes. Ils sont déliés de leurs devoirs envers la connaissance et déchargés du soin des souvenirs et de tous les prochains fantômes du possible. Voilà ce que la rigueur, l'attention, la précipitation de notre existence trouble ou dilapide. Le progrès de l'insomnie sont remarquables et suivent exactement tous les autres progrès. La fatigue et la confusion mentale sont parfois telles que l'on se prend à regretter naïvement les Tahitis, les paradis de simplicité et de paresse, les vies à formes lentes et inexactes que nous n'avons jamais connues. Les primitifs ignorent la nécessité d'un temps finement divisé. Il n'y avait pas de minutes ni de secondes pour les anciens. Mais nos mouvements aujourd'hui se règlent sur ces fractions. Le dixième, le centième de seconde commence de n'être plus négligeable dans certains domaines de la pratique. La machine généralisée a exigé ces précisions. Elle est si fortement imposée à l'espèce que l'on peut rapporter à l'existence et à l'accroissement de son empire toute manifestation de l'esprit de notre époque. Des intelligences vivantes, les unes se dépensent à servir la machine, les autres à la construire, les autres à prévoir ou à préparer une plus puissante. Enfin, une dernière catégorie d'esprits se consume à essayer d'échapper à la domination de la machine. Ces intelligences rebelles sentent avec horreur se substituer à ce tout complet et autonome qui était l'âme des anciens hommes, je ne sais quel daimon intérieur qui ne peut que collaborer, s'agglomérer, trouver son apaisement dans la dépendance, son bonheur dans un système fermé, qui se fermera d'autant plus sur soi-même, qui sera plus exactement créé par l'homme, pour l'homme. Mais c'est une définition nouvelle de l'homme. Tout le trouble qui aujourd'hui, dans les esprits, annonce que de grands changements se préparent dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, de l'intelligence classe. Pensons un peu maintenant à ce que j'appellerais l'intelligence classe. Tout le monde sent bien que quelques tribus existent qui se distingue par ses rapports particuliers avec l'esprit. Personne n'en peut douter, ni en donner une description complète, simple et arrêtée. Il s'agit d'une nébuleuse sociale à résoudre. Mais celle-ci est de ces molles nébuleuses auxquelles plus s'attache le regard, plus leurs contours se dissolvent, plus leurs formes se fondent ou se dérobent. Il demeure toujours quelque chose que l'on ne sait ni raccorder à la figure générale, ni distraire d'elle. Et cette espèce, pourtant, se plaint. Donc, elle existe. Intellectuels, artistes, membres des diverses professions libérales, les uns sont assez utiles à la vie animale de la société, les autres sont inutiles. Et parmi ces derniers, les plus précieux peut-être, ce qui relève un peu notre race, et lui donne l'illusion de connaître, de s'avancer, de créer, de se roidir contre la nature. Il arrive aujourd'hui que l'on parle de la dépression de la valeur de ces hommes, de l'affaiblissement de leur prestige, de leur extermination par le dénuement. Leur existence est en effet étroitement liée à une culture et à une tradition, l'une et l'autre menacées de destins inconnus par la révolution actuelle des choses de ce globe. Notre civilisation prend ou tente à prendre la structure et les qualités d'une machine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La machine ne suffira pas que son empire ne soit universel et que des êtres subsistent, étrangers à ses actes, extérieurs à son fonctionnement. Elle ne peut d'autre part s'accommoder d'existences indéterminées dans la sphère d'action. Son exactitude, qui lui est essentielle, ne peut tolérer le vague ni le caprice social. Sa bonne marche est incompatible avec les situations irrégulières. Elle ne peut admettre que personne demeure, de qui le rôle et les conditions d'existence ne soient précisément définis. Elle tente à éliminer les individus imprécis, à son point de vue, en reclassant et reclasser les autres, sans égard au passé, même ni même à l'avenir de l'espèce. Elle a commencé par s'attaquer aux populations peu organisées qui existent sur le globe. Une loi qui se combine avec cette loi primitive qui fait du besoin et du sentiment de la force des impulsions agressives veut de plus qu'il se produise immanquablement un mouvement offensif du plus organisé contre le moins organisé. La machine, c'est-à-dire le monde occidental, ne pouvait qu'elle s'en prit quelques jours à ces hommes indéfinis, parfois incommensurables, qu'elle trouvait en elle-même. Nous assistons donc à l'attaque de la masse indéfinissable par la volonté ou la nécessité de définition. Lois fiscales, lois économiques, réglementation du travail et surtout modification profonde de la technique générale, tout s'emploie à dénombrer, à assimiler, à niveler, à ordonner cette population interne d'indéfinissables et d'isolés par nature, et qui constitue une partie des intellectuels. L'autre partie, plus aisément absorbable, devient être d'ailleurs redéfinie et reclassée. Quelques remarques éclairciront peut-être ce que je viens d'écrire. Ce ne fut jamais qu'indirectement que la société put soutenir la vie d'un poète, d'un théoricien, d'un artiste, en œuvres lentes et profondes. Elle en fait quelquefois des serviteurs fictifs, des fonctionnaires normaux, professeurs, conservateurs, bibliothécaires. Mais les corporations se plaignent, le peu d'arbitraire d'un ministre se réduit de plus en plus. La machine a de moins en moins de jeu. La machine ne veut et ne peut connaître que des professionnels. Mais comment s'y prendre pour tout réduire en professionnels? Quel tâtonnement dans l'entreprise de déterminer les caractères des spécialistes de l'intellect? Et qui saurait, oserait mettre ou ne pas mettre dans la catégorie intellectuelle une devineresse, un ordonnateur de cérémonie, un pitre de foire? Qui soutiendra qu'il se dépense plus d'esprit dans une tête que dans une autre? Qu'il en faut plus et plus de connaissances pour enseigner que pour spéculer commercialement ou pour créer quelque industrie? Il faut se résoudre à patauger dans les exemples. Partager, quelquefois, c'est aussi faire bondir deux ou trois gouttes de lumière. Dans les questions qui sont confuses par essence et qui le sont pour tout le monde, je trouve permis, pour être louable, de livrer tels quels les essais les actes inachevés, les états mêmes rejetés et référés de sa pensée. J'ai lu parfois des définitions très surprenantes de l'intellectuel. Il en est qui reçoivent le comptable, qui éliminent le poète. Il y en a tels qu'entendues à la rigueur de la lettre, elles englobent, elles sont impuissantes à exclure ces belles machines à calculer ou à carrer des courbes qui sont si supérieures à tant de cerveaux. Ces machines calculatrices qui me passent par l'esprit me suggèrent une réflexion que je noterai au passage. Il y a des activités intellectuelles qui peuvent changer de rang par le progrès des procédés techniques. Quand ces procédés deviennent plus précis, quand la profession se ramène peu à peu à l'application de moyens innombrables, exactement indiqués par l'examen du cas particulier, la valeur personnelle du professionnel perd de plus en plus d'importance. On sait quel rôle joue l'habileté individuelle et les procédés secrets dans une quantité de domaines. Mais le progrès dont je parlais tend à rendre les résultats indépendants de ces qualités singulières. Si la médecine, par exemple, arrivait quelques jours dans les diagnostics et dans la thérapeutique correspondante à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définis et bien ordonnés, le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir. Il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie individuelle. Il se rangerait désormais tout auprès du pharmacien, qui est placé un peu plus bas que lui jusqu'ici, parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance. On pourrait dire en termes bizarres et empruntés du langage de droit qu'il existe des intellectuels fongibles et d'autres qui ne le sont pas. Les premiers sont déjà engagés dans la machine ou peu éloignés de l'être, étant ceux qui sont interchangeables et que l'on peut prendre l'un pour l'autre. À la vérité, il n'y a point d'hommes absolument interchangeables. Ils ne le sont, quand ils le sont, qu'à une certaine approximation. Ceux qui ne peuvent point du tout se remplacer l'un par l'autre, par la raison qu'ils n'ont point d'autre, sont aussi ceux qui ne répondent à aucun besoin incontestable. On peut donc considérer aussi, dans le peuple intellectuel, ces catégories remarquables, les intellectuels qui servent à quelque chose et les intellectuels qui ne servent à rien. Le pain des hommes, leurs vêtements, leurs toits, leurs mots physiques, Dante ni le poussin ni Malebranche n'y peuvent rien. Réciproquement, le pain, le vêtement, le toit et le reste ont quelque tendance à se refuser à ces êtres. On ne peut guère justifier la subsistance des plus grands hommes que par des phrases. Ce problème de l'intelligence classe est fort loin d'être un problème nouveau. L'actualité, comme l'on l'a dit, le rend seulement fort pressant, plus pressant qu'il ne fut jamais. Mais rien de moins neuf. Oh, l'histoire en est assez facile à résumer. L'opportunité ou la nécessité de donner à l'esprit, sous les espèces de certains hommes, une place définie dans le corps social, a, de tout temps, soulevé une difficulté essentielle et invincible en soi. Cette difficulté réside non seulement dans le choix même de la définition, mais encore dans l'obligation de prononcer des jugements inévitables sur la qualité. On se heurte dans toute tentative à la question insoluble de la détermination du meilleur. En patois scientifique, on pourrait parler d'aristométrie. Si tout le monde use de l'esprit qu'il a, il faut d'abord décider qu'il y a des usages de l'esprit qui peuvent servir à distinguer une certaine classe. Mais il faut encore tenir ou ne pas tenir compte de la valeur de ces usages
c'est-à-dire des œuvres et même des recherches en mouvement. Un mauvais maçon est un maçon, un mauvais mécanicien est un mécanicien, mais un artiste improvisé, un savant de reconnu par les autres, un philosophe sans le savoir, un poète selon soi-même, que sont-ils? Et que sont un artiste, un savant, un philosophe, un poète, pendant la durée de leur préparation cachée et de leur attentat et l'état d'énigme? Descartes commence ses publications dans sa 48e année. Sébastien Bach a 50 et quelques années. Jusque-là, l'un est rentier, ex-militaire, l'autre organiste d'une église. Et deux hommes qui finissent par mettre au jour les œuvres que l'on sait n'ont pu exister jusqu'au moment de leur éclat que grâce à l'absence de précision dans les définitions sociales de leur époque. J'ai encore quelques mots à dire sur l'histoire du problème. De temps immémorial, on a donné à ce problème une solution simple, pratique et même brutale. Elle consiste à définir l'intelligence par la scolarité. Plus un pays a conservé sa figure primitive, plus il est stationnaire, plus cette définition par les études contrôlées y est importante, sinon exclusive. L'intelligence classe est alors la classe de ceux qui ont fait leurs études. Les études sont démontrées par des diplômes, preuves matérielles. Mandarin, clerc, docteur, licencié constituent la classe intellectuelle qui est ainsi désignée de la façon la plus claire, puisqu'elle est matérielle et devient très aisément dénombrable. Ce système est excellent pour la préservation et la transmission des connaissances, médiocre sinon mauvais pour leur accroissement. Il arrive aussi que la preuve matérielle soit plus durable que ce qu'elle prouve, que le zèle, la curiosité, la vigueur mentale de celui qu'elle institue, membre de la classe des lettrés. Parmi les inconvénients du système, il faut signaler l'ankylose de l'homme dans son attitude initiale. On me dit qu'il est encore possible en Amérique de changer de carrière à tout âge, de passer du libéral au manuel, et réciproquement. De cette conception si ancienne et si commode, on passe très aisément à la notion moderne des professions libérales. Ce sont, paraît-il, les professions qui conviennent à un homme libre. Un homme libre ne devait pas vivre du travail de ses mains. La profession libérale s'opposait à la profession manuelle. Mais un chirurgien se sert de ses mains, voire ganté. Un pianiste vit de ses doigts. Un peintre, un sculpteur essaye d'en vivre. Tous les professionnels jadis étaient regardés comme ouvriers. Véronèse, cité en témoignage par l'Inquisition de Venise, répond sur sa profession « Son lavoratore, je suis un travailleur. Aujourd'hui, le changement est profond. Le chirurgien ne se confond plus avec le barbier, l'artiste avec l'artisan, et la hiérarchie sociale, fondée sur l'estime, sur le degré supposé de noblesse des occupations, sont déplacées. La chirurgie se trouve classée bien plus dignement que bien des professions où les mains ne servent qu'à écrire. On voit combien de questions sans réponse soulève la simple tentative de faire une idée personnelle de la place dans le monde moderne des hommes de l'esprit, ou de ceux qui, par tradition, sont supposés l'être. Chaque attaque des difficultés trouve aussitôt sa riposte. Il faut bien, cependant, avant de mesurer un certain mal et d'en décrire les symptômes, essayer de reconnaître ses victimes. On m'a vu tenter vainement de circonscrire l'intellectuel et de découvrir des signes certains de ma profession libérale. Ce genre de recherche est parfois aussi divertissant qu'un jeu de société. Elle recèle tout l'infini de l'inattendu. La surprise a pour ressort profond le grand fait dont je me suis occupé il y a quelques pages. Une société nouvelle saisit une vieille société en flagrant délit. Une organisation plus puissante et plus stricte attaque une organisation moins puissante et plus vague. L'analyse s'égare dans la complexité des rapports et des définitions et des distinctions qu'elle est obligée de constater ou d'introduire quand elle prétend s'emparer de tels conflits. Quoiqu'elle se sente d'ailleurs intimement convaincue de la fragilité et même de la futilité de toutes les spéculations morales et politiques, elle ne laisse pas de percevoir ce qu'il y a de fort grave et presque de poignant dans ce désordre critique qu'elle n'arrive point à définir. Savons-nous si le pain, quelque jour, si les choses nécessaires à la vie ne seront pas refusées à ces hommes dont la disparition ne troublerait en rien la production de ce pain et de ces choses? On verrait périr tout d'abord tous ceux qui ne peuvent se défendre en se croisant les bras. Tout le reste suivrait ou reviendrait aux tâches matérielles, gagnées par la misère mourante. Et les progrès de cette extermination manifesteraient dans le réel, pour quelque suprême observateur, la hiérarchie positive des besoins vrais de la vie humaine la plus simple.